Chapitre 5. Maintenant, Isidore réfléchit. Il veut comprendre. Il s'est trompé. Il a mal compris le document. Le mot « aiguille » ne désigne pas le château de l'aiguille au bord de la Creuse. Les demoiselles ne peuvent pas être Raymonde de Saint-Véran et sa cousine, car le document date de plusieurs siècles. La solution de l'énigme se trouve dans un livre publié sous Louis XIV. Ce livre parle du mystère de l'aiguille creuse. C'est ce que M. Massiban a expliqué. Il reste aujourd'hui un seul exemplaire du livre et une copie de la page avec la solution. Cette page, la reine Marie-Antoinette l'a glissée dans son livre de prière. Beautrelet doit absolument retrouver cette page. Le livre de prière de la reine est au musée Carnavalet. Beautrelet décide d'y aller aussitôt. À son arrivée au musée, il trouve une foule de journalistes. On prévient le directeur qui mène Isidore Beautrelet devant la vitrine. Isidore est ému au moment d'ouvrir le livre. Il ouvre le livre et cherche le document, mais il ne trouve rien. Soudain, à la fin du livre, il sent quelque chose sous la couverture. C'est une lettre signée de Marie-Antoinette et sous sa signature, deux mots. Arsène Lupin. C'est un choc. Lupin a découvert le secret de l'aiguille et il a pris le document. Aussitôt, Beautrelet annonce au journaliste qu'il recherche le traité de l'aiguille. Peut-être qu'on retrouvera le seul exemplaire du livre. Monsieur Massiban de l'Académie répond à Beautrelet. Il est sur une piste. Il est parti dans les environs de Rennes, chez les descendants d'un proche du roi. Il propose à Beautrelet de le rejoindre. Beautrelet est content. Il est sûr de trouver la solution au mystère de l'aiguille creuse. Mais tout cela lui semble trop facile. Est-ce que ce n'est pas encore un piège de Lupin? Beautrelet arrive au château de bonne humeur. Il y retrouve Massiban qui est arrivé 10 minutes plus tôt. Le baron de Vélines est un homme de 60 ans qui vit avec sa fille Gabrielle de Villemont. Son mari et un de ses fils sont morts il y a peu de temps dans un accident de voiture. Le baron accueille les deux visiteurs. Il parle beaucoup, il prend son temps. Les deux hommes s'impatientent. Puis le baron leur montre enfin le livre « Le mystère de l'aiguille creuse ». Beautrelet l'ouvre. Il tourne les pages rapidement. Il s'arrête lorsqu'il trouve les 5 lignes mystérieuses de points et de chiffres. Un tableau et des explications suivent le document. Beautrelet continue sa lecture, puis il s'arrête au milieu d'une phrase. Il s'exclame « Les pages suivantes sont déchirées. Il manque 2 pages. Les pages avec les réponses. Regardez !»« Vous avez raison. On a arraché les pages, » confirme Massiban. « Mais qui a pu faire ça? Monsieur le baron, vous avez peut-être une idée ?» demande Beautrelet.
« Nous pouvons demander à ma fille ?»
On appelle Madame de Villemont. Une femme jeune entre dans la pièce. Elle semble triste. Beautrelet l'interroge tout de suite. « Vous avez trouvé ce livre dans la bibliothèque ?»«
Oui, je l'ai trouvé dans une pile de livres. Je l'ai lu hier soir. Il est très intéressant. Il y a des révélations passionnantes. »
Hier soir, ces 2 pages manquaient déjà? Les 2 pages qui suivent ce tableau?
Pas du tout. Il ne manquait pas 2 pages. Le livre est resté dans ma chambre. Je l'ai apporté ici quand M. Massiban est arrivé. Je ne comprends pas.
Est-ce que vous avez lu les 2 pages arrachées, madame? Demande Beautrelet.
Oui, répond Gabrielle de Villemont.
Pouvez-vous me dire ce qu'elles contiennent?
Oh, c'est simple. L'aiguille creuse veut dire...
Un domestique entre à ce moment dans la pièce. Il donne une lettre à Madame de Villemont. Elle l'ouvre et la lit. Elle semble terrorisée. Beautrelet attrape le papier et lit à son tour.
« Taisez-vous, sinon votre fils ne va pas se réveiller. »
À ce moment, une autre domestique entre. Elle annonce que Georges, le fils de Madame de Villemont, dort immobile. On n'arrive pas à le réveiller. Il a les mains très froides. La mère court vers la chambre de son fils. Beautrelet, lui, sort une arme de sa poche et tire sur Massiban. Massiban évite le coup de feu.
Beautrelet se jette sur lui. Il crie au domestique. « C'est Arsène Lupin, à l'aide !» Dans la panique, Massiban attrape le revolver d'Isidore. Il pointe l'arme sur les domestiques et le baron. Ils sont tous effrayés et surpris. Puis Massiban, ou plutôt Lupin, les salue et quitte tranquillement le château. Beautrelet observe Madame de Villemont avec son fils. Il comprend qu'elle ne parlera pas. Alors il quitte le château. Il prend le chemin de la gare. Il entend une voix qui l'appelle. « Tu pars déjà, bébé ?» demande Lupin. « Tiens, voilà ton revolver. Oui, mets-le dans ta poche, je préfère. Allez, je ne t'en veux pas. Monte !» Lupin siffle pour appeler son chauffeur. Il ressemble à un enfant. Beautrelet rit. Ah, enfin, tu ris. Tu es trop sérieux pour ton âge, dit Lupin. Et tu veux savoir comment j'ai su que Massiban t'a écrit une lettre? Ton ami du lycée qui habite avec toi, il parle trop. Ah, voilà que tu as déjà perdu le sourire.
Lupin pousse Isidore à l'intérieur de sa voiture qui vient d'arriver et il continue.
Aujourd'hui, j'ai été incroyable, tu ne trouves pas? C'est moi qui ai arraché les pages. Pendant que tu parlais au baron, je déchirais les pages du livre derrière la porte. J'ai donné de l'argent à un employé de maison pour qu'il apporte le mot à Madame de Villemont. Elle ne devait pas parler. Et toi, est-ce que tu allais deviner qui j'étais?
Puis Lupin s'adresse d'un ton sévère à Beautrelet. Il lui demande d'arrêter ses recherches sur l'aiguille creuse. Il sait qu'Isidore n'arrêtera pas, mais il ajoute « Moi, j'ai découvert le secret en 10 jours.
Toi, tu y arriveras en 10 ans. »
Isidore décide de s'installer dans un hôtel dans le centre de Paris. Il ne sort de sa chambre que pour manger. Il cherche un lien entre tous les événements. Au bout de 13 jours, Beautrelet arrive à la conclusion que tous les événements ont un point commun. La Normandie. Le premier duc qui connaît le secret de l'aiguille est normand. Le drapeau de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, est percé d'une aiguille. C'est à Rouen que Jeanne d'Arc, qui connaît le secret de l'aiguille creuse, meurt. Et à l'origine de cette aventure, il y a le chef d'un village normand qui a révélé le secret à Jules César. Enfin, Louis XIV a construit le château de l'aiguille dans le centre de la France. Il voulait éloigner les curieux de la Normandie. Et depuis 10 ans, toutes les affaires avec Arsène Lupin se passent dans cette région. Beautrelet est sûr, c'est en Normandie que se trouve le repère de Lupin. C'est là qu'il cache tout son butin. Isidore part pour la Normandie. Un matin, dans une auberge à Honfleur, il remarque un homme qui le regarde avec beaucoup d'attention. L'homme s'approche de lui. « Bonjour, monsieur Beautrelet, » dit-il à voix basse. « Qui êtes-vous? Vous m'avez reconnu? C'est que vous êtes si mal déguisé, » dit-il avec un accent étranger. « Qui êtes-vous ? » répète Beautrelet. « Je ne vous connais pas. »« Vraiment ? » répond l'homme qui sourit. « Je suis Herlock Sholmès. » Isidore est excité.
« Vous êtes ici pour Lupin ? » ?»«
Oui, entre Lupin et moi, c'est une lutte à mort. »«
Maintenant, partez, on nous regarde. »
Avec beaucoup de patience, Beautrelet continue ses recherches. Il croit en son hypothèse. Il examine souvent le document. Il l'a reproduit et a remplacé les chiffres par des voyelles. Il est heureux et se promène dans cette région magnifique. Un jour, il arrive au fort de Fréfossé. Une porte bloque son accès. Il continue sa route par un chemin qui le mène à une petite grotte. Il entre, pose son sac et s'assied. Par une ouverture carrée, il voit la tour du fort de Fréfossé. Soudain, il remarque à ses pieds 2 lettres immenses gravées dans le sol, un D et un F.
2 lettres du document.
Excité par sa découverte, Beautrelet quitte la grotte. Sur le chemin qui longe l'ancien fort, il croise un homme. Il l'interroge. « Quel est le nom de cette grotte, là-bas ? » ?»«
Ici, à Étretat, on l'appelle les Demoiselles. » répond l'homme.
Beautrelet est bouleversé.
Il retourne vers le fort quand tout à coup, il s'arrête.
Il doit être tout près de la cachette de Lupin. Il a peur d'être vu par Lupin ou ses complices. Il doit rester discret. À plat ventre, il s'avance jusqu'au bord de la falaise. Il admire la vue. Il y a un énorme rocher de plus de 80 mètres de haut. Il est large à la base et il diminue vers le haut. Et soudain, presque au sommet de l'aiguille d'Étretat, il voit de la fumée qui sort d'une crevasse.